Chapitre 3. Comme il n'y a rien de plus difficile à déraciner qu'une opinion reçue, on en était toujours aux amoureux au moment où Mme Artaud s'établissait à Oissel, et bien que, depuis longtemps, on ne rencontrât plus la Vaupalière et sa femme divaguant la nuit par les chemins à des heures indues, la légende continuait à raconter leur promenade nocturne. Donc, Médéric, semblait-il, ne pouvait être exposé à aucun danger sérieux dans cette aimable maison. Il s'y amuserait et ce serait tout. Cependant, il n'avait pas fallu longtemps à Mme Artaud pour reconnaître que ses amoureux, s'ils l'avaient jamais été, n'étaient plus que des époux comme on en voit tant, et que les raisonnements qu'elle avait bâtis en parlant de la légende amoureuse pourraient bien n'être pas justes. Malheureusement, quand cette découverte était venue troubler sa sécurité, son installation était achevée, de nouvelles habitudes étaient prises qu'elle ne pouvait pas rompre sans raison valable à donner à sa famille, à ses amis, aussi bien qu'à son fils. Comment dire « Je quitte Oissel parce que j'ai peur que mon fils se prenne d'amour pour une femme qui n'aime pas son mari. » On lui rirait au nez. Et d'autre part, elle rencontrerait assurément dans Médéric une résistance qui aboutirait à une lutte où elle perdrait sûrement une bonne part de son autorité, sans parler des sentiments de confiance et de respect qu'il avait pour elle. Il n'y avait pas qu'avec le notaire et sa femme que Médéric se fût lié en arrivant à Oissel. Tout de suite, il s'était attaché à Turlure, et la relation, qui avait commencé comme celle d'un maître et d'un élève, avait bien vite pris le caractère d'une amitié sérieuse que Mme Artaud avait été la première à encourager de toutes ses forces et qu'elle ne saurait rompre maintenant sans mettre tous les torts de son côté. De même qu'elle avait voulu que son fils passât quelques heures par jour dans l'étude de la Vaupalière, sans avoir pour cela l'intention de faire de lui un notaire, de même elle avait été heureuse qu'il travaillât sous la direction de Turlure, que lui avait recommandé un de ses oncles, fabricant de produits chimiques à Rouen, qui connaissait bien le pharmacien d'Oissel et avait pour lui, pour son savoir et son caractère, une estime réelle. « Si tu réalises ton intention de te fixer à Oissel, lui avait dit son oncle, tu trouveras là un homme qui pourra t'être très utile pour l'éducation et l'instruction de ton fils et à qui je le recommanderai. C'est un pharmacien nommé Turlure. » « Mais je ne désire pas que Médéric étudie la pharmacie, avait-elle répliqué, un peu suffoquée par la pensée que son oncle voulut mettre son fils derrière un comptoir de pharmacien pour y rouler des pilules ou broyer des poudres dans un mortier. « Ni moi non plus. Mais comme tu ne sais pas ce que ton fils sera un jour, pas plus qu'il ne le sait lui-même d'ailleurs, tu dois envisager comme une bonne fortune que ton fils puisse travailler sous la direction d'un savant, comme on en trouve quelquefois en province, honnête, consciencieux, modeste et ignoré, qui déterminera peut-être en lui une vocation quelconque, ce qui est la grâce que je souhaite à ce fils trop aimé, dont tu n'es que trop embarrassé. » Pharmacien pour gagner le pain quotidien, le sien et celui de sa nombreuse famille, Turlure est en outre un chimiste de mérite, je puis te l'affirmer, moi qui ai une certaine compétence là-dessus, et en plus un botaniste et un minéralogiste. Si Médéric prenait goût par hasard à la botanique, à l'histoire naturelle, à la géologie, même à la chimie, pourquoi ne le pousserait-on pas du côté où il paraîtrait incliné ? Cela vaudrait autant, il me semble, que d'être magistrat ou notaire. » Et en voyant sa nièce touchée dans sa maternité inquiète par ces considérations, l'oncle en avait ajouté d'autres bien faites pour l'émouvoir encore davantage. « Ce n'est pas d'aujourd'hui que je te montre mes craintes, que tu ne fasses rien de ton fils, non qu'il manque d'intelligence, mais parce que, n'ayant pas de boussole, il n'écoute que son caprice et ne trouve pas près de toi une direction ferme, qu'une femme, je le reconnais, est incapable de prendre, alors surtout que cette femme est affolée par sa tendresse maternelle. Les choses étant ainsi, il est sans doute difficile de les changer, mais on peut les améliorer, et je crois que si chaque jour, à chaque instant, Médéric subissait l'influence d'un homme sage et droit, en qui il aurait confiance, il en tirerait un grand profit. Eh bien, Turlure, qui est cet homme sage et droit, peut exercer cette influence et rien que par son exemple être utile à ton fils. Pour que tu n'en doutes pas, je vais te le faire connaître. Et j'espère que tu auras foi en mes paroles qu'inspirent l'intérêt de ton fils et le tien. N'en doutez pas, mon oncle. Turlure est le fils d'un herboriste d'Elbeuf qui n'a reçu pour éducation première que celle que donnait l'école primaire, ce qui, à cette époque, n'était pas grand-chose. À 13 ans, il partit pour Paris, où il entra comme élève, homme de peine et femme de ménage, dans une pharmacie du quartier Mouffetard. Ce fut là que, pendant 10 ans, grâce au voisinage de l'école de pharmacie et du jardin des plantes, il se donna tout seul l'instruction qui lui manquait, au hasard de ses sorties, entendant 5 minutes d'une leçon, 10 d'une autre, allongeant ses courses pour traverser l'école de botanique de la rue de l'Arbalète ou celle du muséum, ou pour passer en courant par les galeries d'anatomie, de zoologie, de géologie, et, si rapide que fût cette course, en emportant toujours quelque chose qui, classé dans sa tête, n'en sortait plus. Avec cela, il ne dormait que 4 ou 5 heures par nuit, et les autres, il les employait à apprendre toujours tout seul le latin, le grec et les sciences qu'on exige pour les examens. Mais si les diplômes de bachelier ne sont pas chers, celui de pharmacien de première classe coûte, avec les frais d'inscription, quelque chose comme 1500 francs. Où trouver cette somme considérable? Il ne pouvait pas plus la demander à ses économies qu'à celles de ses parents. L'invention d'une nouvelle pilule pharmaceutique, dont le besoin se faisait sentir, paraît-il, les lui procura. Il eût pu exploiter lui-même son invention, qu'elle lui eût apporté une grosse fortune, comme elle en a rapporté une à celui qui la lui a achetée, et qui est aujourd'hui une puissance dans le commerce parisien, membre de tous les jurys d'exposition, officier de la Légion d'honneur, sénateur, etc., etc. Mais comme cela était au-dessus de ses moyens, il dut se contenter de la vendre et d'en tirer 3000 francs, avec lesquels il passa ses examens et épousa une brave fille aussi pauvre que lui, qu'il aimait depuis 5 ans. Cela ne dispose-t-il pas en sa faveur ? Assurément. Misère avec misère fait quelquefois de bonnes affaires. Ce fut leur cas. 6 mois après leur mariage, le père Turlure, forcé par la paralysie d'abandonner sa boutique de la rue du Nemours, tombait à la charge de son fils, et celui-ci, qui travaillait à ce moment pour obtenir les diplômes supérieurs qui ouvrent les portes officielles de la science, renonçait à Paris, à ses rêves et à ses ambitions, pour venir s'échouer à Wessel et ouvrir une petite pharmacie qui fit vivre sa famille. Seule, la pharmacie qu'il créait n'eut point produit ce résultat. Mais Turlure sait se retourner. Un jour d'été, qu'il revenait mélancoliquement des essarts porter des médicaments, car il n'avait pas même un garçon qui fît ses courses, il remarqua que les sous-bois étaient fleuris de magnifiques digitales. Pour comprendre ce qui va suivre, il faut que tu saches que, de nos plantes médicinales indigènes, la digitale est celle qui rend les plus grands services en thérapeutique, mais que l'action qu'elle exerce est due autant à ses propriétés qu'aux soins qu'on apporte à sa récolte. Pourquoi n'entreprendrait-il pas cette récolte et sa préparation, puisque, sur la quantité de digitales consommées en France à cette époque, il n'y en avait pas un quart de bonne. Dès le lendemain, il se mettait au travail et, aidé par des gamins qu'il ne payait que quelques sous par jour, il faisait la cueillette des feuilles qui ont le plus de principes actifs, c'est-à-dire celles poussées sur des plantes à leur 2e année. Il les séchait dans des conditions spéciales, les pulvérisait et envoyait ce produit à ses anciens maîtres ou à ses camarades, qui, plus heureux que lui, étaient restés à Paris, pour qu'il fût essayé comparativement avec celui qu'on trouvait dans le commerce. 3 ans après, il était, pour la digitale et les préparations dont elle est la base, le fournisseur d'une bonne partie des pharmacies françaises, et il voyait sa vie assurée, ainsi que son indépendance. Sans doute, il y a loin de cette petite affaire forcément limitée à celle qu'il a vendue pour 3000 francs et qui a fait une grosse situation commerciale, politique et sociale à son heureux acquéreur. Mais de cela, je ne l'ai jamais entendu se plaindre. « Sans doute, mes pilules sont bonnes, » dit-il en riant quand il en parle. « Mais ce qui vaut mieux qu'elles, c'est la façon de les faire avaler par le public, et cela, je ne l'aurais jamais trouvé. » Voilà l'homme sans envie qui se trouve heureux de sa modeste aisance parce qu'il vit entouré des siens. Sa mère, une vieille belle-sœur et je ne sais combien d'enfants. Ce qu'il appelle étroitement, alors qu'au contraire, c'est largement. Car personne plus que lui n'a de sympathie efficace pour les petits et les humbles qui sont assurés de trouver auprès de lui secours et protection. De ce côté, il y a bien une tendance socialiste qui n'est pas pour me plaire, mais dont Médéric, certainement, saura se garder, tandis qu'au contraire, il ne pourra pas ne pas être touché par les leçons et les exemples qu'il trouvera auprès de ce brave homme, dont l'existence telle qu'il la pratique est un enseignement constant. Mais pour que cela se réalise, il faut qu'il passe sur certains travers auxquels il aura le bon sens, je l'espère, de n'être pas tout d'abord trop sensible, et dont je veux que tu sois prévenu pour que vous ne commenciez pas par vous en moquer. Ainsi, Turlure est un petit bonhomme à lunettes qui peut prêter à rire par la manière de se dresser sur ses ergots en se renversant en arrière et en allongeant le cou pour ne pas perdre un pouce de sa taille. De même, son tic d'effleurer à chaque instant du bout du doigt sa boutonnière violette peut paraître ridicule, comme peut l'être aussi sa manie de n'employer, pour les choses les plus vulgaires, que des mots scientifiques ou pompeux. Mais tout cela n'empêche pas que, si j'avais un fils, je serais heureux qu'il vécût le plus possible dans la compagnie de ce petit bonhomme. Pourquoi, je te le recommande. Comme l'oncle l'avait prévu, il n'avait tout d'abord été sensible qu'au ridicule de Turlure, et quand il avait entendu appeler Médéric « jeune mycologue » ou « jeune malacologiste », d'après les études que celui-ci avait faites dans sa journée sur les champignons ou les animaux mous, ils avaient commencé par rire de lui, bien que prévenu. Mais ils n'avaient pas tardé à reconnaître la mère comme le fils, et le fils autant que la mère, que l'oncle Bouttevilain avait raison. Dans ces conditions, comment risquerait-elle de rompre ses relations? D'ailleurs, lors même qu'elle s'y déciderait, Médéric l'accepterait-il?